Les parents décident de rester attentifs, car Estelle dit bientôt voir d'autres personnes qu'elle sent plus ou moins agressives et qui souhaitent, d'après elle, entrer en contact pour passer des messages. Sur les conseils de sa maman, Estelle refuse et explique à ses gens qu'elle ne peut accéder à leurs demandes. Parfois, ces autres personnes ne sont pas des inconnues. À une occasion, Estelle dit avoir vu sa mamie en compagnie d'un certain René. Il se trouve que René était le père de Jeanne, l'arrière-grand-père d'Estelle, que la petite n'a jamais connu. Il est décédé longtemps avant sa naissance, et Pierre et Sophie ne parlent jamais de lui. Un soir, nous a-t-elle dit, mamie et René sont venus me voir pour me faire un petit coucou, et René m'a trouvée rigolote. Il ne me connaissait pas. Quelque temps plus tard, c'est Aline, la maman de Jeanne, qu'Estelle dit avoir rencontrée. Grâce à l'écoute bienveillante mais attentive de ses parents, Estelle semble vivre ses expériences, très fréquentes au début, quasiment tous les jours et plutôt le soir, comme quelque chose de tout à fait naturel. Sa grand-mère vient pour la rassurer ou pour transmettre un message. « Tout va bien, tout se passe bien. Il ne faut pas que vous soyez triste. Profitez de la vie. » Toujours des paroles apaisantes d'amour. Aujourd'hui, Estelle n'évoque plus la présence de Jeanne à ses parents. A-t-elle cessé de lui apparaître? Ou l'adolescente éprouve-t-elle le besoin de refuser ses contacts? Désir de normalité. Quand sa maman tente une question, Estelle interrompt son activité, baisse les yeux à peine une seconde, comme si elle ouvrait une porte de perception intérieure, puis reprend ce qu'elle faisait, comme si de rien n'était, et répond que sa mamie est occupée. Chapitre 33. L'homme qui croyait peindre des paysages. Pour la majorité d'entre nous, lorsque le mental bloque, les rêves semblent constituer l'espace de rencontre le plus communément utilisé par les défunts pour venir se manifester. C'est de cette manière que mon père est venu me donner une information qui a eu des conséquences incroyables. Au moyen de la peinture, toute sa vie, mon père a travaillé sans relâche à essayer de s'approcher de ce qu'il appelait la chose, désignant par là une sorte d'expérience ineffable qui, en dehors de ses rêves nocturnes, l'avait touché brièvement à une ou deux reprises devant un paysage réel. Cet écart, parfois vertigineux, entre la réalité et son monde imaginaire, fait de souvenirs, d'évocations littéraires, de voyages et de rêves, constituait la matière même de son œuvre picturale et le théâtre d'une inlassable quête. Je sais aujourd'hui que, de temps à autre, un pinceau à la main, il touchait à cette chose essentielle et si subtile, si fragile, si impalpable, qui a trait au sens de la vie. Dans l'acte de peindre, il s'en approchait par instants, et dans le secret de son atelier, parvenait parfois à faire de brèves incursions dans un autre monde. Mon père était également un homme de lettres. Écrire représentait pour lui une discipline aussi impérieuse que sa peinture. Pour que s'entretienne la musique des phrases, il déclamait Tolstoï, Flaubert ou Stendhal à haute voix pour m'apprendre à composer un texte, alors que je lui soumettais mes premiers articles de jeune journaliste. Mais il souffrait de la pauvreté des mots, de l'inadéquation de la réflexion pour remplir le vide abyssal dans lequel nous plonge parfois la bizarrerie de l'existence et de la mort. La mort qui emporta son fils un jour d'avril. Mon père était un colosse d'intelligence et d'émotion, un modèle irremplaçable pour l'enfant puis l'adolescent admiratif que je fus. Au quotidien, un homme gentil, modeste, à la culture démesurée mais discrète, qui m'a appris la retenue et la fragilité des certitudes. J'ai eu une chance inestimable de recevoir de sa part une éducation paradoxale, peu orthodoxe. Apprentissage de l'autonomie, richesse de la voie autodidacte. pertinence du silence et de la simplicité. Je suis si fier de mon père. Un agrégé, professeur en classe préparatoire, qui m'approuve et me soutient quand je décide d'abandonner l'école sans même me donner la peine de passer mon bac. Un artiste. Un homme penché en permanence sur son monde intérieur, source mystérieuse de la création. Un exemple si merveilleux et inspirant pour un enfant. Je suis d'ailleurs encore aujourd'hui un peu un enfant, grâce à lui. Il a publié plusieurs livres durant sa vie. En s'éteignant, il nous a laissé un court manuscrit, véritable palimpseste de sa pensée, travaillé, corrigé, réécrit 100 fois, retapé inlassablement au cours de ses dernières années, pour aboutir à un texte concis, musclé, essentiel à ses yeux, mais qu'il n'était pas parvenu à faire publier de son vivant. Intitulé « L'homme qui croyait peindre des paysages ». Il s'agit d'une sorte d'essai alternant description minutieuse de ses ressentis de peintre et réflexion philosophique sur l'existence. L'ouvrage lui ressemble tant il est atypique. Sans doute est-ce pour cela que plusieurs de ses éditeurs avaient hésité, puis finalement renoncé à le publier. Les semaines précédant sa mort, je lui ai promis de tout faire pour que son livre sorte enfin. Ce texte lui tenait à cœur énormément. Lorsqu'il décède, à la mi-juin, je ressens le poids de cette responsabilité que j'ai accepté d'endosser. « Je ferai ce que je pourrai », me dis-je. Malheureusement, les amis éditeurs à qui je l'envoie ne savent pas comment réagir devant ce manuscrit semblable à nul autre, et les mois s'écoulent sans que je parvienne à tenir ma promesse. Environ 3 ans passent, puis un beau matin d'avril, dans les derniers instants qui précèdent le réveil, je rêve de mon père. Dans ce rêve, je suis dans une rue de Paris, en train de marcher à ses côtés. C'est agréable. Nous retrouvons une complicité heureuse. Nous parlons de choses et d'autres. Lorsque soudain, il m'annonce que son livre va être publié par les éditions Albin Michel, qui se trouve être mon éditeur dans la vraie vie. Je lui demande de quel livre il parle. Il me répond « Le dernier ». Et il ajoute avoir beaucoup apprécié sa rencontre avec la secrétaire générale de la maison, qu'il a trouvée fort aimable. Je lui confirme que c'est une femme charmante et que j'irai la voir sans tarder pour faire établir les contrats. Mon père et moi poursuivons un moment notre promenade en direction de la maison, puis il stoppe et m'annonce, d'un air sérieux, devoir passer par un autre chemin. « Mais la maison est par là, » lui dis-je. Il me regarde avec bienveillance et douceur, les yeux déjà lointains, un sourire aux lèvres. Et à cette seconde, je me réveille. Dans les minutes qui suivent, je suis profondément troublé tant je ne peux me défaire de la sensation intense d'avoir réellement parlé à mon père. À la toute fin du rêve, il m'a regardé un peu comme s'il savait que j'allais me réveiller et quitter son monde onirique, mais si réel, où nous nous étions retrouvés. Immobile au milieu de la rue, il me regardait repartir vers ma vie et abandonner son rêve. Bouleversé par ce songe qui avait si fort le goût de la rencontre, j'appelle aussitôt Marc de Smet, mon éditeur chez Albin Michel, qui, aussi intrigué que moi, me demande de lui faire parvenir le texte. Après lecture, il m'annonce l'adorer. Pourquoi ne lui en ai-je jamais parlé? 4 semaines après, le contrat est signé comme une évidence. Mon père savait-il? Est-il venu me prévenir? Mieux, m'a-t-il aidé à tenir mon engagement? Le fait est que l'homme qui croyait peindre des paysages est aujourd'hui publié, alors que j'avais baissé les bras. Chapitre 34. 3 anges et 2 rêves. Leur Emmanuel est allongé dans son lit d'hôpital. Un vent frais court sur les toits d'Avignon. En ce début décembre, la mort approche. Elle est inéluctable, et désormais, Laure Emmanuel le sait. une partie d'elle l'accepte enfin. Laure Emmanuelle, 29 ans, est une jeune femme joyeuse, permanencière appréciée de tous dans l'unité du SAMU où elle exerce. Après une adolescence un peu difficile, elle a su transformer l'adversité de ses années délicates en joie de vivre et fait l'admiration de ses parents pour sa gentillesse et la détermination avec laquelle elle avance dans la vie. À la fois sérieuse et très rieuse, même après l'annonce de sa maladie, période durant laquelle Laure Emmanuelle va montrer une résolution à toute épreuve, volontaire et combative. Cela dure près d'une année. 11 mois marqués par plusieurs périodes d'hospitalisation. Radiothérapie, chimio, espoir, amélioration, rechute. Puis arrive ce moment où tenter de nouvelles thérapies devient plus risqué que de maintenir le protocole en place. Même si les chances que ce seul traitement suffise désormais à la sauver se réduisent. Alors, cette curieuse perspective, à la fois si proche et tellement impensable, la mort, se profile. L'idée que Laure Emmanuelle ne survive pas à ce lymphome devient une possibilité envisageable. Mais comment en parler? Jusqu'à quelques semaines avant son départ, l'idée reste abstraite et réelle. Tout le monde espère qu'elle va s'en sortir, elle la première. Malgré tout, au hasard des discussions, le sujet est parfois abordé. Michel, sa maman, comme le reste de la famille, est ouverte. On se parle avec simplicité et une belle intelligence. Et puis, Laure Emmanuelle conserve un caractère bien trempé. Elle ne baisse pas les bras, elle y croit, s'accroche à la vie. Mais le temps avance, les jours, les semaines s'écoulent et la maladie est là. La fatigue, la douleur, l'affaiblissement, tout cela crée des failles, alimente le doute, fait naître des interrogations. Au fur et à mesure que son état de santé décline, la grande peur de la mort augmente. Pour qui cela ne serait pas le cas? Car même si la jeune femme est très soutenue, si son compagnon est présent, ses parents aussi, la mort est un secret et son mystère est si vaste. La souffrance est là aussi, qui l'affaiblit tant. Alors, parfois, quelque chose lâche en elle. Une part d'elle commence à consentir à ce que l'arrêt de cette existence soit possible. Une forme de résignation l'envahit et elle y trouve de la paix. Et puis, voilà que quelques instants plus tard, contre l'évidence de son corps, elle croit à nouveau à sa guérison prochaine. Dans ces moments qui la rapprochent du dernier souffle, Laure Emmanuelle alterne entre déni et acceptation. Paradoxe d'un temps où se prépare l'événement le plus marquant et inquiétant d'une existence, son terme. Psychologiquement, Laure Emmanuelle passe ainsi constamment par de grands extrêmes. Paix, inquiétude, calme, tourment, apaisement. Ses proches savent être présents malgré l'ambivalence de leurs propres ressentis. Douleur d'une issue de plus en plus évidente, mais que l'on se refuse à accepter. Négation tellement compréhensible de voir partir son enfant, son aimé. Parce que, oui, elle va partir. Laure Emmanuelle s'éteint tout doucement. Durant les derniers jours, la morphine atténue ses douleurs. Suffisamment en tout cas, pour qu'elle redevienne souriante par instant et paraisse même globalement plus apaisée. Elle est consciente. Il lui arrive de plaisanter, de demander par exemple à son père de l'emmener à la piscine pour soulager ses douleurs dans le dos, alors que tous deux savent que ce n'est plus possible. La plupart du temps, dans la chambre, règne une atmosphère calme d'adhésion sereine à la perspective désormais attendue. Cette ambiance adoucie est un soutien pour tout le monde. Dans cette chambre, chaque membre de la famille est en effet attentif aux autres. Laure Emmanuelle, la première, qui s'inquiète du bien-être de ses parents. Nous sommes 3 jours avant sa mort. Dans ce temps hors du temps, Laure Emmanuelle, immobile et si frêle dans son lit, regarde sa mère et lui dit « Maman, j'ai vu trois anges autour de mon lit. » Michel ne voit rien et ne sait trop quoi répondre. C'est une femme pragmatique qui essaie toujours de faire la part des choses. Et puis, Laure Emmanuelle est sous morphine. Dans le même temps, elle sent la sincérité de sa fille qui s'exprime normalement malgré son état. Que penser ? Laure Emmanuelle n'a jamais été versée dans la spiritualité. Alors, que sont ces anges ? Une illusion ? Ou des vrais êtres venus prendre soin d'elle à l'aube de son départ ? Ses parents se refusent à toute interprétation. Laure Emmanuelle seule possède peut-être la réponse. Trois jours plus tard, dans la matinée du dimanche 12 décembre 2010, à quelques jours de l'anniversaire de ses 30 ans, Laure Emmanuelle s'éteint. Son départ est un déchirement. Le souvenir des jours qui suivent demeure encore aujourd'hui voilé pour Michel. À 64 ans, une maman enterre sa fille. Les formalités, les obsèques, le silence, les jours où il n'y a plus à se rendre au chevet de Laure Emmanuelle. Étrange moment que cette entrée dans le deuil. Heureusement, le couple est uni. Michel et son mari s'épaulent, peuvent compter l'un sur l'autre. Ils parlent, s'écoutent avec bienveillance. Et dans de tels instants, cet amour est sans prix. Deux semaines après la mort de Laure Emmanuelle, Michel se réveille un matin avec la sensation d'avoir passé une partie de la nuit avec sa fille. Dans ce rêve, elle se retrouve à l'hôpital d'Avignon, dans la chambre où Laure Emmanuelle est partie. Je la vois debout, avec les vêtements qu'on lui a mis pour l'enterrement. Elle a les cheveux coupés courts, ce qui m'a surprise. Pour quelle raison ? Ce n'était pas sa coiffure habituelle ? Non ? Les derniers temps, elle avait une perruque. Donc, j'étais étonné de la voir avec des cheveux, comme s'ils avaient commencé à repousser. Dans mon rêve, je sais qu'elle est morte. Aussi, mon premier réflexe est de lui dire « Mais, ma fille, tu es debout. Comment ça se fait que tu sois là ? Je te croyais morte. »« Mais maman, ça va bien ?» me dit-elle presque en me grondant, comme elle avait l'habitude de le faire parfois. Dans ce rêve, votre fille vous paraît-elle savoir être décédée ?
Oui, puisqu'elle poursuit. Je suis très bien. Ça fait 15 jours que je suis partie, et maintenant je vais bien.
Mais j'ai faim. Et elle s'approche de moi pour prendre un bol sur la table de la chambre. Ce bol est rempli de ce que j'appellerais de la manne céleste, une sorte de nourriture spirituelle. Et c'est là que le rêve s'arrête brutalement. Et je me réveille avec un sentiment de paix incroyable.
Comment l'expliquez-vous ?
C'était elle dans ce rêve, ça venait d'elle. Je ne pouvais pas le mettre en doute, c'était tellement évident. Et j'ai réalisé que cela faisait pile 15 jours qu'elle était partie. Je vivais une telle douleur que je n'avais pas compté les journées. Pile 15 jours.
Qu'est-ce qui vous fait qualifier ce rêve de différent ?
La qualité de l'image, si on peut dire. La sensation que c'était vraiment quelque chose de vivant, de réel, d'extrêmement réel. J'ai l'habitude de me souvenir de mes rêves, et celui-là, juste au moment du réveil, était d'une telle clarté, d'une telle évidence, que franchement je me suis réveillé époustouflé. Ce rêve a eu un profond effet sur moi.
Lequel ?
Il m'a enlevé ce qui était chaud, brûlant et douloureux. L'effet bénéfique a duré pendant un mois au moins. Et puis, bien sûr, petit à petit, les aléas de la vie ravivent la douleur. Mais sur le coup, il m'a vraiment permis de passer un cap dans mon deuil. Comme s'il me l'avait facilité. Vraiment beaucoup facilité.
Au mois de janvier, c'est le père de Laure Emmanuelle qui vit une expérience semblable. Plus terre à terre, mais traumatisé par le départ de sa fille, il est bouleversé par un rêve si différent de ceux qu'il fait habituellement. Avec beaucoup de pudeur, il confie que cette nuit-là, il s'est retrouvé en compagnie de sa fille. Alors qu'elle se tenait tout contre lui, Laure Emmanuel lui disait simplement « Je t'aime ».
Ce rêve a eu un impact salutaire sur moi, me confie-t-il. J'avais été littéralement sonné, anesthésié par son décès, puis les funérailles. La sentir près de moi, me disant ces mots « Je t'aime », m'a permis de reprendre ma place dans le monde des vivants. Avec son épouse, tous deux ont la même sensation d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, des retrouvailles dont le message serait « Je suis là, je suis toujours là ».
Était-ce une rencontre réelle? La réponse, Michel et son mari l'ont dans leur cœur. Le mince rayon d'un fragile espoir vient de caresser leur visage à tous les deux. Les cendres de leur Emmanuel ont été répandues dans la garrigue, face au mont Ventoux, au pied des Alpilles, un endroit vaste et magnifique, comme la Provence en recèle tant. Chapitre 35. Les âmes sœurs. Manon et Sarah se sont rencontrées quand elles avaient respectivement 13 et 14 ans. C'est Sarah qui a remarqué Manon la première. Elles se trouvaient toutes les deux dans la rue et la surprise a été immédiate. Étrange sensation pour Sarah, au début de l'adolescence, de reconnaître quelqu'un. Nos âmes se connaissaient déjà, c'était une évidence. Pourtant, les deux filles ne s'abordent pas. Juste un échange de regards, un salut poli. Que dire? Comme elles sont dans deux collèges différents, plusieurs mois passent sans qu'elles se croisent à nouveau. Jusqu'au jour où le destin s'en mêle, et Sarah voit arriver cette jeune fille si familière dans sa propre classe. Dès cet instant, une reconnexion s'opère et les deux filles deviennent inséparables, nouées par une amitié extrêmement forte. On s'appelait les âmes sœurs. Manon est brillante, impatiente, assoiffée, mais un peu en décalage avec le monde dans lequel elle semble avoir été parachutée et où elle ne trouve pas trop sa place. Elle refuse de jouer le jeu, de suivre des règles qui n'ont aucun sens à ses yeux. À titre d'exemple, plutôt que le contrôle demandé, elle rend des poèmes à son professeur. Mais cette rébellion permanente est joyeuse, pleine de vie, et fascine Sarah, qui a l'impression de voyager chaque fois qu'elle est avec Manon. Les deux amies parlent de philosophie, du sens de la vie, des échanges riches, exaltants, comme si chaque discussion leur permettait d'atteindre l'essence des choses.
C'est ça aussi qui nous a beaucoup liés. On était vraiment branchés sur autre chose que cette vie-là. Ce monde ne lui correspondait pas.
Selon au tableau de cette relation si évidente, Sarah a toujours inexplicablement ressenti que son amie allait mourir prématurément. Et le plus curieux, c'est que Manon elle-même le dit parfois.
« Je sais que je mourrai jeune. »
Et ce, avant même qu'elle commence à prendre des drogues.
C'était quelqu'un de très connecté, et même d'un peu trop connecté, parce qu'elle est décédée d'une overdose.
Pourquoi dites-vous qu'elle était connectée?
Elle a voulu tout expérimenter, aller au bout de ce qu'elle était. Elle est partie en 2005, elle avait 19 ans.
Cette overdose est un cataclysme. À 20 ans, Sarah est terrassée, abandonnée. Sa vie est bouleversée par la perte de son amie. Elle commence alors à s'ouvrir davantage à la spiritualité. Elle cherche, sans savoir trop quoi, et ses lectures la portent vers Krishnamurti, qui est une vraie rencontre. Elle dévore de nombreux ouvrages sur la mort. Lorsqu'elle doit faire un choix professionnel, elle s'oriente vers le métier d'infirmière et fait son thème sur la mort, obnubilée qu'elle est par ce sujet. Peut-être est-ce dû au fait que depuis le départ de Manon, Sarah rêve d'elle quasiment tout le temps.
Une étrange relation entre deux mondes a commencé en effet à peine quelques jours après la mort de son ami. Cette première nuit, Sarah rêve que Manon et elle se retrouvent dans un endroit immaculé, d'une blancheur incroyable. Manon est belle, heureuse. Dans ce rêve, toutes deux savent qu'elle est morte. Elle présente sa tante à Sarah et d'autres membres décédés de sa famille. Le rêve, le lieu de leur retrouvaille, sont si agréables. Elle était dans le monde des morts, précise Sarah.
Comment le saviez-vous ?
C'était une évidence. On se retrouvait en rêve dans le monde des morts. Manon m'a présenté sa tante, et puis d'autres personnes auxquelles je n'ai pas fait attention. Et puis on s'est mis à parler toutes les deux, et l'on n'a pas arrêté. Elle m'a fait visiter l'endroit aussi.
Comment était-ce ?
Très lumineux, très blanc. Tellement agréable.
Ce premier rêve marque des sortes de retrouvailles.